Hello, hello, est-ce que tu m'entends, Phil?
Ouais, parfaitement. Tu m'entends
Ok,
bien?
ouais, je t'entends nickel.
Ok, parfait.
Je te propose, moi je ne t'ai pas entendu, donc fais-moi un petit débrief de d'hier, le temps que les gens arrivent. Quel est ton ressenti sur le match d'hier?
Bah écoute, c'est un peu ce que je disais hier, c'est le soulagement, le sentiment qui prédomine par rapport à cette campagne catastrophique de Ligue des Champions et par rapport à tous les matchs que tu as pu avoir. Au final, réussir à décrocher une troisième place, c'est un moindre mal. Et au final, tu arrives à l'avoir à toute fin. Et encore hier, on se fait peur parce qu'on a une efficacité qui est horrible. Rien à voir avec ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà, comme je te dis, soulagé et en espérant que ça permette de construire une deuxième partie de saison un peu plus joyeuse que ce qu'on est en train de vivre actuellement.
On te l'espère. Je pense que tout le monde dans l'équipe ne te l'espère pas, mais je
Oui,
te
non mais.
l'espère. Moi, je n'ai pas d'enjeu à te l'espérer ou pas, donc je peux te dire que je te l'espère.
Voilà, merci bien. Toi, je sais qu'il n'y a pas de problème, t'es externe à toutes nos petites guerres.
Exactement. Du coup, première question, le temps plus que tout le monde arrive. Est-ce que selon toi, il faut intégrer le Shakhtar en Liga Betclic pour voir Galeno briller régulièrement?
écoute, force est de constater que ça lui réussit bien. Hein. Doublé à l'aller déjà. Doublé à l'aller, doublé au retour.
Et doublé d'assist en plus aujourd'hui.
Et deux.
Ouais. En fait, il met
Il y a le troisième.
sur le troisième et c'est lui qui fait la déviation pour Pep sur le quatrième,
Ah,
sur le
c'est lui qui
corner.
fait. Ok,
Ouais.
d'accord. Deux doublés à l'aller, doublé au retour, deux doublés d'assist sur le retour aussi. C'est pas forcément le Shakhtar qu'on avait vu, que ce soit contre Barcelone ou contre Antwerp, mais c'est en même temps pas le Shakhtar que j'avais vu à l'aller.
Ça, c'est clair.
Le Shakhtar à l'aller, il me semblait tellement perdu, mais tellement pas prêt pour ce genre de match. Aujourd'hui, le Shakhtar était en difficulté, mais parce que le FC Porto l'a mis en difficulté. Et c'était le type de match que le FC Porto aime bien, quand il y a de l'espace, des joueurs de couloir qui peuvent profiter des trous parfois béants de la défense adverse. Et du coup, c'est les matchs parfaits pour Galeno, pour qu'il puisse avaler les kilomètres et aller marquer ou faire les passes comme il a l'habitude de faire quand le scénario lui permet.
Ouais, je pense qu'effectivement, on peut parler un peu de cette équipe du Shakhtar. En tout cas, rapidement, on reviendra un peu plus précisément. Mais c'est clair que c'est le jour et la nuit avec le match aller.
Ah ouais, rien à
Le
voir.
match aller, Porto va s'imposer tranquillement, mais en jouant les mains dans les poches et en ne jouant même pas la deuxième mi-temps. Ici, alors, en deuxième mi-temps, le Shakhtar a eu plus de mal. Mais en première mi-temps, le fait que la première occasion de Porto part d'une perte de balle du gardien parce qu'ils attirent Taremi sur la pression pour ressortir avec des jeux en triangle. Je me suis dit, mais c'est pas la même équipe qui est là. C'est le Shakhtar d'une autre année en fait qu'on retrouve là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment assez bluffé la première minute. Puis après, on s'habitue aussi le jeu, mais vraiment réussir à aller jusqu'à attirer la pression de Porto pour ressortir via des jeux en triangle et des renversements de jeu. Franchement, bravo au travail fait en quoi? En 2 mois? Un peu moins de 2 mois? Franchement, c'est impressionnant la différence de qualité de l'équipe entre le match aller et le match retour. Mais.
Moi, je pense juste qu'on a vu leur vrai visage en fait aujourd'hui, c'est tout. Et
Ouais.
qu'à l'aller, tu sentais une équipe qui était. Bon, après, il y avait un contexte qui était particulier. Tu jouais à domicile, mais t'es à l'extérieur. T'as des mecs qui. Enfin, ils ont des familles qui sont à la guerre. Certains, même, ont dû aider de manière directe ou indirecte. Enfin, et puis, les têtes sont pas forcément là. Donc, à l'aller, tu sens qu'ils sont pas le rythme et qu'ils sont pas du tout dans le sillon de ce que demande la Ligue des Champions. Et là, bah, je pense que c'est juste le vrai visage du Shakhtar et que ils sont tombés sur une équipe de Porto qui a été clinique aussi. Et au final, même les, enfin, moi, j'ai rarement vu un match où tu as 8 buts alors que tu as l'impression qu'il n'y a pas tant d'occasions que ça. C'est-à-dire que
Ouais.
presque chaque occasion dangereuse, c'était but. Parce que tu regardes, et il n'y a qu'à voir les expected goals, on est à 0,91, je crois, j'avais regardé pour Shakhtar, et 1,26 pour Porto, et au final, il y a 8 buts quand même. Donc c'est qu'il n'y a pas eu tant d'occasions flagrantes que ça, sachant que dans les 0,91 du Shakhtar, il y a le premier but où le gars a juste à la pousser au fond,
Oui.
ce qui, je pense, représente un sacré pourcentage quand même.
En soi, le deuxième but, il y a, techniquement, il y a 0% de chance, parce que c'est pas une frappe, c'est un but contre son camp, en plus.
Oui, en
C'est aussi
plus,
ça
oui.
qui joue.
Donc ça rééquilibre un petit peu. Mais c'est pour te dire que ouais, il n'y a pas eu vraiment en soi de grosses occasions. Et au final, enfin, à chaque fois que ça descendait, il y avait but. Bah, tu vois, le but de Taremi et le but de Chico Conceição, c'est vraiment des trucs de je viens de chipper le ballon et je
Ouais.
pars seul après, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'opportunisme, beaucoup de réalisme. Ça change de certaines équipes qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, bah, c'est tout aussi plaisant. Alors, il n'y a pas eu autant de. On n'a pas eu ce qu'on a eu à l'aller. Parce qu'à l'aller, en deuxième mi-temps, il ne s'est plus rien passé, quoi.
Ouais, on s'est
C'est-à-dire
emmerdé.
qu'après. Ah ouais, en deuxième mi-temps, ouais. Alors là, même si, comme je te dis, tu n'avais pas forcément pléthore d'occasions, bah, tu avais des buts. Et puis tu avais des belles séquences des deux côtés, alors qu'à l'aller, tu avais vraiment l'impression qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain et l'autre faisait juste le nombre en face, quoi.
Ouais, et bah tu parles de l'efficacité, tu as parlé des expected goals, mais j'ai pas le souvenir d'un arrêt de Diogo Costa. Je pense pas qu'il a fait un arrêt, un vrai arrêt, il en a fait aucun.
Il y a l'action où il y a c'était en
Ah oui,
première
si,
mi-temps,
si,
il me semble.
ouais.
Il y
Avec
a
une
le
balle
centre,
qui revient. Ouais.
il est obligé de mettre les points parce qu'il est gêné, donc pour moi, il y a
Oui.
peut-être même faute sur le gardien. Puis après, il y a une passe en retrait, il y a la frappe et là, il fait un bel arrêt.
Ouais, c'est juste. Surtout qu'en plus, elle est un peu masquée,
Ouais.
la frappe, c'est
Et
juste.
c'est la seule que j'ai en tête, là.
Ouais, c'est possible. Et le gardien en face fait un bon match, mais concrètement, des arrêts difficiles. C'est les deux têtes de Taremi, une en première mi-temps, la toute première occasion, et une en
Ouais. Et
deuxième.
celle en deuxième, ouais.
Ouais. Par contre, il passe tout près d'en sortir plusieurs, hein, des buts. La frappe de Taremi, le but de Taremi, il le touche. Enfin, il touche, elle est juste trop puissante.
Oh, mais elle est tellement forte.
Ah ouais, elle est tellement. Elle est imparable. Elle est trop
Elle est
puissante.
parfaite. Oh, elle est parfaite, tu peux rien faire.
Mais
Mais
du coup, t'as
après,
celle-là, le face-à-face de Conceição, il la touche aussi.
il la touche
Et
aussi.
ouais, et la reprise de Pep, il la touche aussi. Mais là, il est en déséquilibre, il peut pas
Mais
faire grand-chose.
il
Mais il
la
la touche du
touche.
bout du
Il fait
pied.
plus que la toucher. Il la touche. Il
Ouais.
la met presque lui.
Ouais.
Mais ouais, bah, au final, je pense qu'il en prend 5. Il sort d'ici, il est frustré, quoi. Et
Oui.
c'est logique. Mais en même temps aussi, enfin, le but de Taremi, la défense elle dort, le but
Ouf,
de Concessant, la défense elle dort. Il est pas tout seul aussi, hein.
non, ça c'est clair. Ça c'est clair.
Et de l'autre côté, c'est pareil, hein. J'ai trouvé que Diogo Costa avait été pas mal été délaissé par sa défense. Parce que
Ouais,
j'ai
non, je.
trouvé quasiment toute la défense un peu en difficulté.
Je pense qu'on fera un focus particulier sur le premier but encaissé. On peut même en parler maintenant. Ben, en fait, c'est le seul qui suit l'action, Diogo Costa. Et un peu Fabio Cardoz, mais qui fait une erreur en faisant un pas en avant qui ouvre complètement le centre.
Il suit tellement l'action qu'il laisse le joueur en jeu.
Oui, c'est ça.
Mais alors, ouah, mais Zaïdou qui prend
Oh là
même
là.
je pense que si l'arbitre il ne lève pas le drapeau, il prend quand même crochet.
Ah, moi je suis persuadé que Zaïdou a pas vu le drapeau levé.
C'est fort probable parce que tu as l'impression qu'il essaye de défendre,
Oui,
mais
oui,
bon, et
oui.
avec
Le
ses
seul qui
lacunes qu'on
s'arrête
connaît,
vraiment, c'est Pep.
c'est Pep,
Et
ouais.
ça, c'est une vraie faute professionnelle, déjà de s'arrêter, mais encore plus quand t'as son expérience. Parce qu'en plus, c'est parce qu'il s'arrête que Sikan est tout seul pour
Oui, mais
frapper.
parce que
Parce que c'est son homme.
s'il y a bien un monsieur dans cette équipe et dans cette défense qui est capable d'être placé au bon endroit, au bon moment pour pouvoir couper un ballon, c'est bien lui. Donc, je suis persuadé aussi que s'il n'y a pas de drapeau levé, et s'il ne s'arrête pas surtout, parce que lui, avec son
Oui.
expérience, sauf que en championnat, tu es habitué à ce que tu t'arrêtes, et
Oui,
du
c'est bon.
coup, voilà, ça suffit. Mais là, on n'est pas au championnat. Donc forcément, tout de suite, ça pose problème. Et bah, comme c'est le plus expérimenté, c'est lui qu'on va pointer du doigt.
Ouais.
Donc,
Surtout qu'en plus, au moment où il s'arrête, il est à 30 cm de celui qui, de Sikan qui marquera le but au final. Donc c'est réellement parce qu'il s'arrête qu'il se retrouve tout seul. C'est pas juste l'attaquant qui a vu qu'il s'arrêtait, donc il part dans ce droit-là. C'était clairement son homme sur la phase.
Et même comme ça, t'es pas loin d'avoir Diogo Costa
Oui, qu'il a
qui
trop
gêne,
là.
parce qu'il la touche quand même,
Il a touché, ouais.
mais s'il la touche un peu plus, je pense que si, parce qu'il le demande aussi le hors-jeu, mais si, encore une fois, il demande pas le hors-jeu, il est concentré vraiment de bout en bout, il touche ce qu'il faut pour que la balle passe entre les jambes de Sikan et qu'elle rentre pas. Et
Ouais, je
même comme
pense
ça,
aussi.
même en la touchant un tout petit peu, Sikan, il est pas loin de louper le ballon.
Ouais, parce qu'elle vient un peu dans son dos. Ouais, non, elle est pas facile.
Elle tape un peu son pied, mais en même temps un peu le tibia. Enfin, elle est pas si simple, alors que, enfin, il y a plus de gardien, il y a plus rien. Hein. Et s'il
Ouais,
rate le but, on se dit, ouais, c'est quand même grave. Sauf
ouais. Là.
qu'au final, elle est pas si facile que ça. Hein. Je
Non,
suis pas
non.
sûr que le numéro 27 de l'équipe rivale aurait
Oh,
marqué. Il aurait fait une Madjer, un truc comme ça.
il aurait tenté de me dire.
Ouais, il aime bien ça.
Pour revenir, donc voilà, on a un peu parlé dessus, là-dessus. De manière générale, est-ce que tu penses que Conceição va retenir les 5 buts marqués ou les 3 encaissés?
Le connaissant, je pense qu'il va retenir les 3 buts encaissés. Parce que déjà, un but encaissé, même s'il en met 12, ça le met hors de lui. Alors là, 3 buts encaissés face à une équipe qui n'est pas, enfin, qui n'a pas été forcément très très dangereuse. Enfin, tu fais ton boulot en contenant l'équipe et tu as la plupart du temps le ballon et la main mise sur le match. Et au final, tu prends 3 buts alors que tu aurais dû te balader comme tu l'as fait à l'aller. Le connaissant, je pense que même en gagnant 5-3, il y a possibilité qu'ils aient pris une soufflante à la fin du match.
Ouais,
Et peut-être même le premier but classique, mais je pense qu'il va pester aussi contre sa défense parce que je pense que pour lui, c'est inadmissible de prendre un but comme ça à ce niveau-là.
Oui, je pense aussi, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il va effectivement retenir les 3 buts encaissés, surtout que ce sont 3 buts bêtes. Le premier, bon, voilà, c'est inadmissible qu'une équipe professionnelle, peu importe que ce soit un niveau Ligue des Champions ou pas, qu'une équipe professionnelle prenne un but comme ça, c'est inadmissible. Mais même le deuxième, c'est si Jorge Sanchez gagne son duel, il n'y a jamais but, donc ça part d'une erreur aussi. Il est en déséquilibre, etc. Mais il se fait avoir. Et puis, c'est Sikan qui fait le crochet. Il crochète aussi trop facilement. Bon, après, c'est pas de sa faute. Elle lui revient dessus trop vite. De toute façon, il ne sait pas se bouger. Mais c'est encore un but qui est évitable. Et le troisième but, sans la perte de balle cataclysmique de Grujic, il y a pas but non plus. Donc, les 3 buts qu'ils encaissent, c'est sur 3 erreurs défensives. Donc, je pense que, comme tu le dis, déjà un but, il aurait été fou. Là, ils en prennent 3. Et les 3 sont 100% évitables, si tu es sérieux.
Ah oui, bah, alors le troisième, je me rappelle plus trop de la perte de balle.
C'est en gros, il est plutôt, c'est sur une relance et il est entre l'axe et le demi-espace et
Ouais.
il fait une, il met la, il la donne dans les pieds de Stepanenko qui a juste après à décaler, enfin qui fait 2 mètres et puis qui décale le buteur qui
Qui
est, je sais plus,
c'est
Aguinaldo, je crois.
ouais, c'est le Brésilien qui venait de
Oui.
rentrer. Mais pareil, il est tout seul aussi. Bon, après, tu me diras, l'équipe est déjà en phase de construction, donc
Ouais, t'as une paire de
forcément,
balles, je peux encore
et puis
comprendre, ouais.
ça va super vite, personne n'a le temps de se replacer. Mais le deuxième but, c'est pareil. Enfin, j'ai trouvé aussi, on en reviendra certainement quand on va parler des individualités, mais j'ai trouvé Sanchez en difficulté. Alors, je suis, enfin, c'est pas mon club, bien au contraire d'ailleurs, je sais pas pourquoi Jean-Marie a pas joué. Je sais pas si il est limité physiquement ou si c'est juste, bah, il a pas voulu le faire jouer. Si les supporters de Porto peuvent nous aiguiller là-dessus. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué Jean-Marie, que je trouve qu'il
C'est
est
pas non plus.
un bien meilleur joueur que Jorge Sanchez, que pour l'instant, moi, je regarde pas tous les matchs de Porto non plus, mais j'ai pas encore vu encore énormément de choses. Et au-delà de ça, le crochet sur Fabio Cardoso, c'est pareil. Il est déjà fautif sur le premier parce qu'il couvre, mine de rien. Et sur le deuxième, enfin, il prend un crochet en se tournant et en donnant son dos, alors que c'est des trucs que tu apprends en Benjamin. Donc, Eustachio, je ne peux pas le. Enfin, je
Non,
l'incrimine
parce
pas
qu'il arrive.
là-dessus. Il
Il sait
peut.
rien faire.
Oh, non, non,
Elle vient trop vite.
c'est impossible, tu peux rien faire. Il a juste pas de chance, il est au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais c'est plus Jorge Sanchez et Fabio Cardoso qui sont pour moi les fautifs sur le deuxième but. Et le troisième but, bah oui, c'est une perte de balle, surtout quand tu es déjà en phase de construction et que l'équipe a déjà ses appuis tournés vers l'offensive. Si tu perds un ballon ici, c'est presque un suicide. Mais heureusement, ça a pas d'incidence sur le résultat. Mais c'est des petits détails qui, connaissant le bonhomme, ont tendance à le rendre un petit peu fou, ouais.
Ouais, ce qui va être dommage puisque c'est un moment où tu avais un peu l'impression que cette fin de match, tous les rentrants voulaient mettre leur petit but ou participer devant. Et donc forcément, tu sais que l'analyse derrière de oui, on a pris 3 buts, ça va de nouveau calmer la folie offensive qui manque déjà à Porto de par l'organisation voulue par Conceição. Mais attends. Dis-moi quand tu montes. Est-ce que là tu m'entends ou pas? Pop, 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 pop. Ah. Ah, Mathieu, toi tu montes. Ok, ben Phil, est-ce que tu. Allô? Ouais, est-ce que Phil, tu m'entends ici? Ah, ok. Bon, 2 secondes. Si vous nous entendez toujours, c'est très bien. Phil va revenir. Il avait un petit problème de connexion. Donc ne vous inquiétez pas, le space continue. Phil, tu me dis quand tu es de retour. Tu me dis si tu m'entends aussi. Dis-moi quand tu es là.
Ok, là c'est
Phil, est-ce que
réglé.
tu m'entends?
Là c'est bon.
Ok, nickel.
Je sais pas si tu as entendu tout ce que j'ai dit du coup.
Non, non, pas ça.
Alors attends. Je me
Moi,
souviens plus.
moi, je me suis arrêté. Pendant que tu m'as dit que tu ne m'entendais pas, moi, je parlais, donc ça a peut-être aussi t'aider à retrouver que ça risque un peu de gâcher cette folie offensive qu'on retrouvait enfin du côté de Porto, avec un peu tous les offensifs qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice. Je ne sais pas si ça te permet de repenser à ce que tu étais en train de dire.
Non, mais il me semble que moi j'étais en train de terminer sur la question que tu m'avais posée ultérieurement, à savoir si ça allait rendre fou Concession de prendre des buts un peu à la con entre guillemets sur ce match-là. Mais par rapport à ce que tu dis, ouais, bah après c'est un match aujourd'hui qui est complètement débridé d'un côté comme de l'autre. Est-ce que c'est pas ce genre de match qui te permet aussi de te retrouver, de retrouver de la confiance déjà? Je pense à Taremi qui était en grande difficulté ces derniers temps, qui avait beaucoup de mal à trouver le chemin des filets et même dans le jeu qui avait quelques difficultés. Aujourd'hui, il a été bon dans les deux sens. Il marque un but et il est pas loin d'en mettre deux autres et en plus il participe au jeu. Galeno aussi, ça lui permet de marquer des buts alors que dernièrement aussi c'était un peu compliqué. Chic Concessa, on continue un peu dans ce qu'il fait de bien, même si prochain match il aura le droit de jouer 5 minutes parce que c'est le fils du coach. Il n'y a que Evan Nilsson qui, à mon sens, était bien ces derniers temps et aujourd'hui a pas pu se mettre bien en confiance. Mais ce genre de match, tu vois, c'est des matchs qui peuvent potentiellement être des matchs que tu vas retenir parce que bah, mine de rien cette année Porto marque pas énormément en championnat, il gagne beaucoup de ses matchs par un ou deux buts d'écart, donc aujourd'hui bon pareil il y a 2 buts d'écart mais t'en mets 5 quand même, donc c'est peut-être un match aussi à retenir sur le plan offensif, même si il faut relativiser par rapport à l'adversité que tu as eu. Je pense que ce week-end t'auras peut-être pas autant d'espace sauf si tu passes de ton côté gauche, là où joue Esgaio. Bon, là, t'auras peut-être plus de facilité, mais que ce soit au milieu de terrain ou même dans la défense adverse, t'auras moins de facilité, je pense, ce week-end, parce que tu vas rencontrer un adversaire beaucoup plus coriace.
Oui, je pense aussi, je pense qu'effectivement, Conça va les terminer défensivement. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il parle de stats pour offensif, parce que tu parlais du fait que Porto gagnait difficilement cette saison. Bon, ici, ils ont été gagnés à Famalicão et contre Casapia en mettant 3. Mais avant ces deux matchs-là, il n'y a que un match où ils avaient mis plus de 2 buts, à part le match contre le Shakhtar, mais en championnat, en 11 journées. C'est très peu. Alors on sait qu'ils encaissent pas beaucoup, mais effectivement, offensivement, c'était quand même fort pauvre. Et bah ici, tu sors de 3 matchs consécutifs où tu en as planté au moins 3. Donc je pense effectivement que c'est aussi à retenir, et il devra insister là-dessus, parce que c'est bien de savoir défendre, mais si tu marques pas, ça, c'est compliqué sur la durée. Et puis je pense que bah voilà, on a commencé un peu le space en parlant de ça, mais on a pris du plaisir devant ce match-là. C'était un match débridé. T'as vu des buts, certains beaux, d'autres sympas, etc. Mais on s'est fait plaisir. 8 buts, et comme tu l'as dit, en plus avec techniquement des expected goals beaucoup plus bas. Donc voilà, je pense que le spectateur neutre a vraiment pris son pied.
Ouais, parce que tu penses, enfin, quand tu regardes le match, hormis les buts, tu t'attends pas à avoir genre autant de buts. Je pense que le résumé, il va être bien riche. Parce qu'au final, hormis les buts, il n'y a pas tant d'actions que ça. Enfin, comme on l'a dit, il n'y a pas énormément d'arrêts des gardiens
Non.
ou de frappes à côté ou quoi. Donc, voilà, c'est des matchs qui sont forcément plaisants. Mais aujourd'hui, un supporter lambda qui regarde ce match, c'est complètement l'inverse du FC Porto du championnat. C'est-à-dire que c'est une équipe aujourd'hui qui est très efficace et qui marque beaucoup de buts sur le match d'aujourd'hui, mais qui a des errances défensives et qui fait des erreurs techniques et qui prend 3 buts, alors que je ne suis pas sûr que ce soit arrivé encore cette saison, tu vois.
Ouais.
Donc c'est complètement l'inverse du FC Porto du championnat, qui est une équipe cette année qui est très solide et qui est dure à manœuvrer et qui marque pas tant que ça. Et aujourd'hui, tu as eu complètement l'inverse, une équipe où tu as eu l'impression que derrière, c'était un petit peu que le bateau tanguait énormément. La faute a aussi deux latéraux qui sont pas sécures. Et aujourd'hui, Fab Cardoz qui n'a pas fait un très très bon match. Et je pense qu'en fait, ils prennent un coup avec le premier but.
Je
Parce
pense
qu'il y a
aussi.
un, y a, après le premier but, il y a un moment de flottement, il y a 10-15 minutes où tu les sens un petit peu perdus, et le Shakhtar en profite un petit peu. C'est un moment où ils ont un peu plus le ballon et tout. Et je pense qu'après, à la mi-temps, il a dû mettre quelques claques et les joueurs sont remis à leur place. Mais c'est un match aujourd'hui qui ne caractérise pas le FC Porto en championnat. Mais ma foi, moi je préfère les voir jouer comme ça en Champions League qu'en championnat, je vais pas te mentir.
Oui, et puis c'est assez symptomatique, c'est que voilà, cette année Porto est dans le groupe de l'Antwerp, donc en Belgique ça a beaucoup suivi du coup Porto en Ligue des Champions. Je peux te dire que personne ne me croit quand je dis qu'ils sont nuls en championnat. Et tout le monde dit ouais, mais ils sont en tête ou tout proche de la tête, etc.
Mais c'est à
Leur
égalité
semaine.
avec Barcelone hein, en Ligue des Champions quand même.
Ouais.
Ils finissent à égalité de points quand même.
Ouais, exactement. C'est pour ça, et ils ont pas fait de mauvais match. J'ai pas le souvenir d'un vrai mauvais match. Ah, peut-être non, même contre l'Inter, ils ont fait ce qu'il fallait.
Même
Mais
pas, même
ouais,
pas.
ils ont tous bien joué. Personne ne me croit. On me dit oui, mais non, ils sont premiers, ils ont la meilleure défense du championnat. Oui, d'accord, mais non,
Même contre
vraiment, c'est
Barcelone,
mauvais.
ils font deux bons matchs.
Ouais.
Non, ils n'ont pas raté un match de cette Ligue des Champions. Mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas que personne ne te croie.
Ah ouais, parce qu'en plus, outre les résultats, ça joue, c'est vraiment pas du tout le même style. Et du coup, je dois montrer des extraits de match parfois pour qu'ils comprennent à quel point c'est ennuyeux, en fait. C'est
Ah
ennuyeux à
oui,
regarder.
c'est pragmatique.
Ouais, c'est ça.
C'est pragmatique. Mais bon, tant que ça fonctionne, écoute. Et ils seront là jusqu'au bout
Oui.
parce qu'ils sont comme ça. Ils sont tout simplement comme ça. Ils peuvent être pas forts ou pas bons ou pas sexy, mais ils seront toujours là. Toujours, toujours. En tout cas, tant qu'ils auront conseillé ça à la tête. Et ça, c'est une certitude.
Ouais, et c'est une force aussi, hein, parce que ça, à un moment donné, ça rentre dans la tête de l'adversaire.
Bah, à qui le dis-tu? Alors là, ouais, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on peut, même s'ils sont pas bons, enfin, on l'est pas non plus, hein, mais on peut pas les évincer de la course au titre. Alors que, enfin, nous, je sais qu'on n'a pas ce supplément d'âme qu'ils ont. Je l'ai déjà dit, enfin, à chaque fois, je le dis, de toute façon. Et j'ai aucun problème à le dire, ça. Je l'ai dit hier, Alex, il pensait que je parlais de force obscure, d'arbitrage. Je lui dis, genre, pas du tout, rien à voir, mais c'est qu'ils ont ce supplément d'âme et ce genre de truc que voilà. Et puis aujourd'hui, je pense que pareil, le 5-3 est poussé aussi par tout le stade.
Oui.
Chose qui, je pense que nous, par exemple, hier, on aurait joué à la maison, on gagne pas 3-1.
Ok.
Je suis certain de ça. Donc ça joue aussi, mine de rien.
Ouais. On t'a parlé rapidement, du coup, du classement avec Barcelone. Du coup, ça me permet d'embrayer. On a parlé de la victoire. On va parler de la qualification. Logique dans l'ensemble, évidemment. Est-ce que Porto devait espérer mieux quand on voit au final le classement final et les deux matchs, notamment contre Barcelone, qui sont quand même les deux tournants. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette qualification?
Devait, je sais pas, parce que si ça dépend, on se place sur quel moment pour pouvoir parler de ça. Est-ce qu'on parle au moment du tirage, après certains matchs, si on parle au moment du tirage, finir premier ex aequo, égalité de points, moi j'aurais pas pensé que ce puisse être possible.
Mmh.
J'aurais pensé qu'il finirait genre avec 10 points et Barcelone avec 12, tu vois, un truc comme ça.
Ouais.
Mais dans tous les cas, j'étais sûr qu'il passerait. Parce que Antwerp, bon, bah, c'est une équipe où il y a un mélange de beaucoup de jeunes et de vieux briscards. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs.
Ouais.
Mais qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience européenne. Et qui est un club qui, au final, a été rebâti là. Très récemment.
Ouais, et qui commence seulement à trouver un peu son rythme ces dernières semaines.
Même en championnat, parce que c'est parfois l'après-coup d'une qualif européenne qui n'est pas forcément attendue. Et Shakhtar, bon, bah, on connaît tous le contexte et on savait que ça serait compliqué. Et le premier match nous a bien aiguillé dans le sens où ça allait être difficile pour eux. Encore que les matchs qu'ils ont fait après... Moi, c'est étonné. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à changer comme ça de niveau aussi rapidement.
Ouais, ils pensent qu'ils vont avoir le regret que la Ligue des Champions n'ait pas commencé un mois plus tard.
C'est ça. Ouais, je pense aussi. Mais bon, après, je pense que pour eux, le mal est ailleurs. Et tu ne peux pas avoir de regret par rapport à cette participation, en vrai.
Non, parce qu'au final, ils y ont cru jusqu'au bout aussi. Oui, et ils seront quand même européens. Donc...
Maintenant, si on parle à l'instant T, après avoir joué les 6 matchs et qu'on prend en compte les matchs aller-retour face au Barça, je pense que tu peux avoir les regrets parce que je pense notamment au match Nou-Dragão où tu fais le match et tu dois faire match nul. Match nul qui t'aurait permis aujourd'hui très certainement de finir premier. Parce que même si le Barça a légèrement fait tourner, légèrement, le fait que bon, Sergio Roberto prenne rouge et que le match tourne en faveur de
le rouge est annulé. Hein, finalement.
Ah, ils ont annulé le rouge ?
Oui, annulé par le VAR.
Ah, j'avais pas vu ça.
Ouais.
Mais bon, dans tous les cas, après, ils finissent par perdre. Mais,
ouais, en ayant remis les titulaires en fin de match.
Après, ouais, encore que, enfin, il y avait Lewandowski quand même titulaire et Gundogan et tout ça, mais... mais Antwerp apparemment a dû faire un gros match. Mais pour moi, ouais, par rapport aux 6 matchs, et comme on l'a dit, ils n'ont pas loupé un seul match. Ils ont toujours répondu présent sur les 6 matchs. Pour moi, il y avait possibilité peut-être de finir premier du groupe. Je trouve que cette année, comparé à l'année dernière, ils finissent premier du groupe dans un groupe qui était très homogène. Ouais. Mais ils ratent leur match contre Bruges, notamment Nou-Dragão. Après, il y a les deux matchs contre Leverkusen qui sont un peu équilibrés. Ouais. Et au final, ils finissent premiers, alors que j'ai trouvé leur campagne moins consistante que cette année. Cette année, je trouvais qu'ils méritaient encore plus leur première place que l'année dernière. Mais bon, voilà, chaque match a sa vérité. Et au final, bon, ils finissent premier ex aequo. Malheureusement, ils vont devoir se taper un tête de série. Mais bon, ça joue à pas grand-chose, quoi. Vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir peut-être de regrets. Et peut-être que certains supporters vont avoir des regrets, parce que pour un point de plus, tu finissais premier, quoi.
Ouais, et justement, pour la suite, et puis on parlera un peu individuellement des tops et des flops, et puis je pense qu'on aura fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite comme parcours? Est-ce que, par rapport à ce que tu as vu ici en poule, alors ça reste difficile de se projeter parce que c'est quand même dans plusieurs mois, mais est-ce que cette deuxième place, elle condamne déjà presque le FC Porto, ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen, un peu comme toujours avec ce FC Porto capable de se transcender, d'aller chercher plus que les huitièmes, même si tu joueras un premier groupe?
Bon, dans tous les cas, peu importe l'équipe qui vont jouer, tu peux être sûr qu'ils seront là. Hein, ça changera rien. Ils seront toujours comme ça. Maintenant, c'est compliqué parce que déjà, quand il y a un tirage, c'est compliqué de pouvoir se projeter parce qu'il y a Il y a 2-3 mois d'écart, parce que ça reprend qu'en février. Il y a un mercato qui passe entre-temps, donc avec potentiellement des départs, des arrivées. Et l'équipe que tu tires, ce n'est pas l'équipe que tu vas affronter en février. Et ça, par exemple, le Paris Saint-Germain l'a bien appris à ses dépens contre le Real Madrid, qui a eu complètement deux visages entre le tirage et la double confrontation. Donc tout dépend. Maintenant, si on prend les formes actuelles, même si ça ne sera pas le cas. Mais si on prend les formes actuelles, je pense que face à un Dortmund notamment, peut-être même un Arsenal, voire un Bayern que je ne trouve pas non plus incroyable. Il y a la Real Sociedad qui, attention, est une très 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 belle équipe, mais n'a pas l'expérience qu'a le FC Porto. Et enfin, expérience est tout ce qu'il y a. L'Atlético, qui est une belle équipe aussi, mais qui, sur deux matchs, ça peut se jouer. Au final, à part peut-être City, et le Real, je me dis que peut-être tout est plus ou moins jouable sur deux matchs, et connaissant le FC Porto. Donc pourquoi pas? Tout dépend de eux déjà. De comment ils vont s'en sortir d'ici là, s'il va y avoir des blessés importants, parce qu'on sait très bien que il suffit qu'il y ait un Pepe ou un Varela, des gars importants qui se blessent, et bah ça peut tout changer. Surtout un mec comme Pepe, s'il se blesse, ça me semble difficile. Est-ce que va y avoir enfin des recrutements de latéraux droit et gauche qui sont les priorités, je pense, pour le FC Porto cet hiver? Ça aussi, c'est une composante à prendre en compte. Et puis après, tout dépendra du tirage. Donc je pense qu'il y a une possibilité de rêver à un quart de finale en fonction du tirage et des formes qu'auront les équipes en février, tout simplement. Mais là, c'est encore un peu tôt, ouais, pour pouvoir se projeter.
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus qu'effectivement il y a une diversité de premiers de groupe aussi. Il y a pas que, voilà, quand tu vois que dans le fameux groupe de la mort, c'est Dortmund qui finit premier.
Oui. Alors que
Voilà.
franchement, moi, je n'aurais pas donné
Oui.
j'aurais pas misé un copec. Hein.
Pas du tout non plus. Donc voilà, t'as effectivement, bah voilà, t'évites le PSG. En finale, en étant deuxième, t'es sûr d'éviter le PSG.
Oui.
Donc effectivement, c'est pas le tirage. Tu peux avoir un tirage favorable, et je pense comme toi que le FC Porto en Ligue des Champions, toute équipe qui tire Porto n'est pas contente de les avoir. Et
Ah, c'est sûr.
ça, c'est quelque chose qui est fort aussi, et c'est quelque chose sur lequel le Conseil va savoir s'appuyer. Et tu peux être sûr que Porto jouera deux matchs pleins, même s'ils sont éliminés, et qu'effectivement, c'est une équipe qui est capable toujours au forceps d'aller un peu plus loin. Pour terminer, quels sont tes tops, tes flops? En exagérant évidemment, il n'y a pas eu un flop ultime, etc. Mais de manière générale, quels sont les joueurs qui t'ont marqué positivement et négativement dans le match?
Bah écoute, bah Galeno obligé, deux buts de passe, tu peux pas passer à côté. Pépé pour le joueur pour le joueur immense qu'il est, pour tout l'abattage qu'il a, pour être devant, derrière, encore une fois. Et Taremi, j'ai envie de mettre Taremi parce que voilà, ça change un petit peu des derniers matchs qu'on a vus. On sentait qu'il était un petit peu en difficulté et qu'il avait peut-être un peu de mal à vivre ce moment un peu compliqué. Et au final, aujourd'hui, tu l'as senti différent des derniers matchs, un peu plus, comme s'il était un peu plus libéré. Et je pense que, alors, malheureusement, ce but va lui faire du bien. Donc voilà, juste pour en citer trois. Après, en vrai, je pense que presque toute l'équipe a été bien. Peut-être mis à part la défense. Je pense que si les flops, ça sera surtout au niveau défensif, parce que je pense que ça a été le bémol. Le moins en difficulté, ça a été peut-être Pep, mais il est coupable sur le premier. Mais bon, il marque un but, il fait un sauvetage à 4-2, je crois.
Ouais, et c'est lui qui est à la base du premier but, puisque c'est lui qui lance le ballon vers Pep. Faire vers Pépé, d'un Pep à un Pep, qui loupe son contrôle, mais Evan Nilsson suit bien et sent. Donc, sans cette ouverture depuis sa partie de terrain, il n'y a pas d'ouverture aussi.
Oui, et puis après, sans parler de tout l'aura et le leadership qu'il a sur le terrain, et que j'aimerais bien voir chez certains autres joueurs dans d'autres équipes, mais bon, on n'est pas leader, hein, on le devient, donc... Donc voilà, c'est le moins en difficulté des quatre. Mais sinon, ouais, en flop, ça va être Fabio Caldo, je vais le mettre parce qu'il est coupable sur deux buts en vrai. Et que si ça avait été peut-être David Carmo, le prochain match, il ne bougerait pas du banc. Mais en même temps, David Carmo, ça devient compliqué de le défendre tant le garçon n'aide pas non plus.
Non, en fait, il est excellent ou très mauvais. Il n'y a pas d'entre-deux.
Il n'y a pas d'entre-deux, tout simplement. Et c'est, même pour les gens qui l'aiment bien, ça devient compliqué de le défendre. Et je pense que les supporters de Porto arrivent un petit peu à bout avec lui. Et le vrai point négatif, ça reste les latéraux. Mais enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi Jorge Sanchez a joué à la place de João Mário. Et encore une fois, ça confirme mes doutes quant à sa qualité.
Pour le préserver pour le week-end.
Oui, possible. À ce moment-là, oui, ça s'expliquerait. Ou peut-être parce qu'il voulait quelqu'un avec plus d'impact physique, peut-être. Je ne sais pas. Mais si c'est pour le préserver, ça se tient. Il a pas voulu faire tourner toute l'équipe parce qu'il veut gagner tous les matchs.
Oui.
Et il a raison. Et bah Zaïdou, mais Zaïdou, c'est pas une, je vais pas taper sur lui, hein, c'est pas une nouveauté, quoi.
Donc on sait qu'il fait avec ses armes, quoi.
Oui,
et il fait de son mieux, tu le vois. Mais
ça, il n'y a aucun souci. Lui, on peut pas remettre en compte son implication, ça c'est certain.
Moi dans mes tops j'avais pareil. J'avais quand même mis le fiston. C'est ça, parce que
j'y ai pensé aussi.
Sa montée rime avec la fin de match un peu en festival. Donc voilà, et j'avais même noté, mais évidemment, on ne peut pas en parler comme d'un top, mais juste, il a touché 4 ballons, mais les 4 ballons qu'il a eus, il les a sublimés. C'est Ivan Raimé.
Un joueur de foot.
Ouais, je suis tellement déçu de le voir si peu jouer. Mais il est monté, il a touché 4 ballons, les 4 ballons, il en a fait quelque chose. C'était.
Voilà. Mais moi, c'est ce genre de mec, je suis capable d'allumer la télé pour regarder mes rivaux jouer. Si un Ivan Raimé est un concessant titulaire et que j'ai rien d'autre à faire, je peux regarder le FC Porto comme je le faisais avec Sporting quand je voyais Daniel Balagan se titulaire. C'est ce genre de choses que je peux faire. Aujourd'hui, j'ai regardé par acquis de conscience parce que je devais faire le space. Mais j'ai pas ce joueur frisson comme j'ai pu le voir cet après-midi en Youth League avec Rodrigo Mora qui est un joueur fabuleux, tout simplement. Même si la première mi-temps il a été un petit peu discret, la deuxième mi-temps quand il décide de se réveiller et d'accélérer, tu dis bon, mon gamin, t'es déjà trop grand Ouais. Enfin, entre guillemets, parce qu'il n'est pas si grand que ça, mais tu es déjà trop fort pour ce niveau. Tout simplement.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ouais, dans les flops, bah, j'avais évidemment mis un peu la défense. J'ai principalement mis Zaïdou Cardos. Bah parce oui, que Sanchez, bon, il est fautif sur le but, sur le deuxième.
Sur le deuxième, ouais.
Mais dans l'ensemble, après, j'en attends pas non plus mon émerveil, donc c'est peut-être pour ça. J'ai trouvé qu'il faisait un match moyen, en fait. Pas mauvais, donc moyen.
Mais je l'ai mais même avec ballon ou même sans ouais. ballon, je l'ai trouvé quand même en difficulté. Alors, peut-être parce que je suis habitué à avoir Jean-Mal et à ce poste-là, et que, notamment avec ballon, il va t'apporter beaucoup plus. Mais bon. Après, oui, voilà, pareil, hein, je l'ai vu un petit peu déjà et je le trouve pas incroyable, donc j'en attends pas non plus des merveilles, mais bon, ça permet d'avoir Pépé un peu plus haut, donc vaut mieux le voir jouer lui.
On est quand même preneur, ouais, c'est ça.
Ouais, clairement. Ouais.
C'est un mal pour un bien, ouais, je suis d'accord. J'avais noté, moi, alors je le considère pas comme un flop, mais Varela, je l'ai trouvé encore plus discret que d'habitude.
Ouais, alors qu'il avait fait quelques matchs et il montait même en puissance sur le dernier mois, il me semble. Bon, après, c'est des matchs où ça peut arriver. Hein.
Donc, oui. Mais il ne fait aucune erreur, il n'est pas impliqué sur aucun but, mais je l'ai trouvé très discret en fait, c'est pour ça. Même avec ballon, je vois pas ce qu'il a croqué. J'ai trouvé Ostakio bien meilleur par exemple.
Oui,
alors qu'il met un but contre son camp, mais bon, ça
ouais, il est
tu ne peux pas le compter, ouais, tu peux pas le compter dans... Non, mais j'ai trouvé Ostakio bien meilleur au milieu.
Et ouais, je pense que c'était un match trop tranquille pour Varela. Il attend ce week-end où là il va y avoir la bagarre et
c'est ça,
que là il va faire son meilleur match. Parce qu'il est habitué à ça vu qu'il vient de,
ça,
il vient de Boca Juniors.
Et pour moi, le meilleur match qu'il ait joué, c'est la réception du Barça.
Oui, bien sûr.
Ouais, et en plus, j'étais au stade, c'était impressionnant. Franchement, lui en tout cas, spécifiquement, en fait, de le voir transfiguré par rapport au match qu'il jouait d'habitude, c'était. Il les a pris, mais il a pris le milieu de terrain à lui tout seul. C'était vraiment.
Et c'est
vraiment
pour ça qu'ils ont été autant en difficulté, le Barça.
Oui, très clairement. Et moi personnellement j'ai mis Grujić aussi, mais dans les flops parce que il monte, il fait déjà une perte de balle, bon sur une remise compliquée de Conceição qui donne finalement rien, mais deux minutes après il perd la balle qui donne le troisième but et je me suis dit mais en fait il a quatre ballons sur le match, il en perd deux quoi.
Bah c'est l'inverse de Ivan Raimé.
Ah oui c'est clair.
C'est-à-dire qu'Ivan Raimé rentre et modifie tout et l'autre il rentre et c'est complètement l'inverse.
Ouais, c'est...
Donc t'as deux rentrées qui sont assez similaires mais complètement différentes.
Mais c'est un truc en plus qui me dépasse, c'est à quel point il est estimé ce joueur. Il a 27 ans, il est estimé à 9 millions. Sa cote c'est 9 millions. Il a 27 ans. Il progresse pas. Il fait jamais un bon match. Il fait rarement des mauvais matchs. Là il a fait une très mauvaise rentrée, mais je le trouve très neutre comme joueur et le gars vaut 9 millions.
Après, sa première année à Porto est bonne. Hein, donc,
oui.
Et puis, il avait fait des matchs, notamment contre Liverpool, par où il est passé d'ailleurs, où il a été très bon. Donc ça permet de valoriser aussi.
Ah, puis surtout, il joue à Porto.
Et puis, il joue à Porto. Voilà. Et après, t'as un entraîneur qui, mine de rien, surtout quand c'est des étrangers et qu'ils ont un peu de la bouteille, bah, généralement, il leur fait confiance, même s'il y a des erreurs, chose qui n'est pas le cas avec la plupart des enfants qui sortent du centre, mais bon ça c'est un autre débat et même s'il est mauvais bah, il continuera à avoir la confiance du coach même si maintenant il est passé troisième dans la hiérarchie au milieu.
Oui, très clairement mais c'est pas temps, plus mal vu les deux devant.
Ouais, les deux autres bon ouais. Je pense que ça souffre d'aucune contestation.
Ouais, je suis d'accord. Dernier petit truc, moi je citerai, j'ai bien aimé le match de Bondarenko, le milieu de terrain de l'autre côté de Shakhtar. Milieu, c'était le central droit au milieu de terrain, dans le milieu à 3. C'est lui notamment qui fait l'ouverture, qui amène le premier but. Et je l'ai trouvé intéressant. Plus en difficulté après la mi-temps, mais comme tout le Shakhtar. Et c'est peut-être un truc voilà, qu'il faut dire, un bon réajustement de Conceição à la mi-temps. Parce qu'on a clairement senti le bloc de Porto qui jouait beaucoup plus haut pour gêner les longues relances et les ressorties de balles qui ont fait du mal en fin de première mi-temps, comme tu en parlais pendant le temps faible du FC Porto. Ouais. En deuxième mi-temps, en fait, jusqu'au dernier quart d'heure de folie, le Shakhtar est peut-être passé trois fois le milieu de terrain. mais pas plus.
Ah oui, mais
ils étaient enfoncés par un bloc de Porto qui était très très haut. Et il y a notamment à un moment donné une phase.
Le match n'avait lieu que sur la deuxième partie de terrain.
Ouais. Et où il y avait à un moment donné genre 2, 3, 4, 5, 6 centres d'affilée du FC Porto qui étaient à chaque fois repoussés. Et à chaque fois, c'était Eustáquio qui récupérait le ballon, qui redécalait sur le flanc pour recentrer. Il y a eu une phase à un moment donné comme ça de 4, 5 centres peut-être. Et là, je me suis dit, ouais, non, là, ils jouent vraiment beaucoup plus haut et les autres sont enfoncés dans leur.
Ah oui.
Et d'ailleurs, on a beaucoup moins revu les sorties de balles en jeu en triangle du Shakhtar après la pause.
Oui, parce que aussi le FC Porto était, ils avaient, enfin, on peut pas faire ce genre d'analogie, surtout vu le contexte, mais ils ont vraiment campé sur le camp du Shakhtar, pardon pour la mauvaise blague, mais, et du coup ils étaient asphyxiés complètement, ils pouvaient pas sortir, ils étaient obligés d'envoyer des longs ballons sur Sikan, et le pauvre. Tu prends des...
Il fait 1m70.
C'est ça, donc...
Et il se retrouve face à Pep et Cardozo à la...
Donc bon, je pense qu'il a connu des meilleurs mercredis. Hein.
Oui, je pense. Et au final, il met quand même un but, et c'est lui qui frappe et qui amène le deuxième.
Ouais.
Donc au final...
Donc il s'en sort pas si mal, quand même.
Ouais, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut se laisser là? Je pense, moi, qu'on a
fait. Moi, je pense aussi sur le match d'aujourd'hui. En plus, on a parlé un petit peu de Youth League aujourd'hui. Donc, du coup, qualifié, premier du groupe et entièrement mérité. Alors, je n'ai pas vu tous les matchs, mais une équipe qui a dans ses rangs des joueurs comme Rodrigo Mora, comme Kandé. Enfin, il y a eu pareil, Martin Fernandes aussi a fait un gros match. C'est logique. Voilà, on dit souvent que la Masia est un meilleur centre de formation d'Europe. Le FC Porto a fini devant avec quand même meilleure attaque et meilleure défense ex aequo. Donc voilà, je pense que cette génération du FC Porto, et Alex l'a dit souvent et il le dit toujours, je pense que c'est une équipe qui sera à prendre en compte dans cette édition du Youth League. Donc voilà, faut faire attention à eux et à voir comment la transition se fait. Si Villas-Boas est élu, est-ce qu'un mec comme Rodrigo Mora va pouvoir jouer en équipe première du FC Porto, ou est-ce qu'il va être prêté à un Portimonense ou une équipe comme ça, et du coup ne va pas pouvoir faire carrière, malheureusement. j'aimerais bien le voir quand même en équipe première, parce que les joueurs comme ça, on veut les voir au plus haut niveau et justement on veut être en compétition contre eux. Donc voilà, encore une fois, je vais parler de lui, c'est un joyau. Je crois que j'ai rarement vu quelque chose comme ça depuis João Félix. D'ailleurs, il y a quelques similitudes dans le profil.
Dans le style,
c'est un joueur délicieux. C'est la définition du joueur délicieux, je trouve. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir jouer. Ils sont vraiment forts, cette génération. Donc elle est à surveiller pour la deuxième partie de saison, du coup.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier que la formation, tu parlais de la Masia, considérée comme le meilleur centre de formation. Je pense qu'en termes de nombre de jeunes qui sortent et qui deviennent professionnels, sans doute, mais en termes de qualité par rapport à la quantité, je pense qu'il y a plusieurs centres de formation portugais et d'autres en Europe qui sont tout aussi bons.
Ah oui, c'est sûr.
Donc, voilà. Voire même meilleurs en termes de rapport qualité-quantité. Et du coup, je pense que c'est pas mal aussi des prestations comme ça, parce que faut qu'on en soit conscient aussi.
Surtout qu'on n'a pas les mêmes réalités économiques. C'est-à-dire qu'un joueur qui sort du Barça et qui joue tout de suite en équipe première, il va y avoir une starification et un prix qui... on le voit bien avec Lamine, on le voit avec Fermin, on le voit avec Margui, qui a marqué aujourd'hui encore, et toute cette nouvelle fournée de joueurs sortis de la Masia. Tout de suite, il y a une mise en lumière
une petite hype
qu'il n'y a pas forcément ici. Justement, nous, on fait partie de ce genre de médias qui mettent le doigt sur ces générations, que ce soit Benfica, Porto, Sporting, Braga aussi, voire même les générations Famalicão, Estoril.
Famalicão avec une belle
Et des gars comme Alex vont te parler de joueurs de U12 d'équipes qui n'existent pas, mais ça c'est parce qu'il est complètement fou. Mais voilà, nous on est là aussi pour parler de ça, pour mettre un peu en lumière ces jeunes joueurs, et justement pour dire que une fois que des mecs comme Vitinha par exemple aujourd'hui jouent au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on peut se dire oui, bah moi je le connais depuis qu'il a 14 ans, quoi. Donc mais ça c'est parce que voilà, après il faut que nous on arrive à les valoriser, qu'ils arrivent tout là-haut, et ça après c'est les clubs qui sont les principaux responsables.
Oui, ça c'est clair, parce que tu parlais donc bah voilà de la petite hype directe qui est autour des joueurs qui commencent en équipe première, mais on peut même parler des joueurs qui n'ont jamais joué avec le Barça, mais qui ont l'étiquette de former à la Masia.
Xavi Simons, tu parles?
Oui, chez Simons ou d'autres. En Belgique, on en a plein. Des gars qui n'ont jamais dépassé les U17. Mais par exemple, bah, à Bruges, pour l'instant, il y a Ferran Jutkla.
Oui.
Lui, par contre, il a joué quelques minutes. Bah, il est venu pour quasi 10 millions. Alors que le gars, il a 20 ou 21 ans et qu'il a 3 bouts de match avec le Barça. Mais il vient du truc. Donc, c'est 10 millions.
Après, pour le coup, lui il est fort.
Mais évidemment, mais il y a plein de joueurs très forts qui n'ont jamais joué avec le Barça. Mais c'est aussi une marque d'avoir joué à la formé à la Masia. Et donc, ça t'ouvre des portes en tant que joueur. Même si tu n'as jamais joué de match pro, forcément, tu passeras devant un autre parce qu'il y a ce truc de la Masia. Et c'est aussi effectivement la responsabilité des clubs portugais de valoriser leur formation pour ce que ça aussi, ça marche. Parce que si tu es un jeune du FC Porto qui n'a pas sa possibilité de jouer en équipe première, parce que bah, pour l'instant, ça arrive à une grande majorité des joueurs de la formation, d'avoir aussi ce truc du « ouais, mais j'ai été formé à Porto », que ce soit reconnu, parce que ça t'ouvrira forcément des portes pour rebondir autre part, parce que c'est le cas des joueurs de la Masia. Tu peux être sûr que si t'es passé par la Masia, tu trouveras toujours un club pour te prendre. Donc, ça sert aussi à ça de valoriser sa formation.
C'est quelque chose qui a été bien pris en considération et qui est bien dans la mentalité des clubs lisboètes, comme Benfica et Sporting, où aujourd'hui, quand il y a un joueur les centres de formation de Benfica et de Sporting sont scrutés attentivement parce qu'ils savent qu'il y a souvent des bons joueurs qui en sortent. Braga est en train de prendre ce chemin aussi, il travaille très très bien.
Oui.
Et je pense que Porto, surtout en profitant de cette belle génération qui arrive, va prendre ce pas-là, surtout si Villas-Boas est élu, parce que ça fait partie aussi de son programme de valoriser la formation. Et en plus maintenant on voit les petits qui commencent petit à petit aussi à bien bosser. Je pense, du coup, on a parlé de Famalicão, Estoril, Ruyav aussi, qui avait un projet de faire un nouveau centre de formation, Casapi, et qui essaye de récupérer pas mal de joueurs de la région de Lisbonne, alors qu'on sait qu'il y a quand même deux monstres qui récupèrent à peu près tout ce qui se fait de bien. Donc si même les petits commencent à valoriser la formation et à bien bien travailler, je pense qu'à terme on va avoir de plus en plus de bonnes formations, et je pense que ça, au final, le but c'est que tout en haut de la pyramide, la sélection soit pourvue de qualité. Le problème c'est que à la Fédé, les formateurs sont incompétents, donc si tu as les bonnes pièces mais que tu n'as pas le bon mécanicien, ça risque d'être compliqué d'avoir une voiture qui roule. Donc
exactement. Donc voilà. Et la formation se fait à tout niveau, parce que un autre exemple, je trouve, qui est très intéressant, c'est celui de Belenenses, qui est quand même dans une région particulièrement fournie, avec une grosse rivalité et des clubs qui sont aujourd'hui bien plus avancés qu'eux. Mais c'est un club qui, après les démêlés que l'on connaît, a énormément misé sur sa formation. Lors des matchs, il y a systématiquement le résultat des jeunes qui est annoncé au public, au peu de public qu'il y a, vu la taille du stade, mais c'est systématiquement annoncé, c'est énormément valorisé dans le musée du club, tous les trophées gagnés par les jeunes, etc. Et il y a encore vraiment cette mise en avant de la formation, et je ne sais pas à quel point, mais j'ai l'impression, de ce qui peut se tourner, que ça reste aujourd'hui plus valorisant pour un jeune d'être formé à Belenenses qu'à Casapia, qui est en division.
Mais tu parles du vrai, le vrai Belenenses.
Oui, je parle du vrai, évidemment.
Pas la mascarade.
Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours cette valorisation de ce club
historique. Mais parce que ça fait partie de l'ADN du club, qui avait cette idée de bien former et d'être particulièrement performant chez les jeunes, surtout à Lisbonne. C'est pour ça que ça a été un club historique d'ailleurs. Et c'est important de voir que voilà, justement, les dirigeants prennent ça en considération aussi.
Clairement, parce que en plus, c'est l'axe, un des axes principaux de la stratégie de la remontée du club. C'est ils ont fait jouer des jeunes quand ils sont redescendus, bon, avec tous les démêlés qu'on a. Ils ont mis beaucoup de jeunes dans l'équipe. Et toujours maintenant, si tu regardes l'équipe qui joue, il y a quand même beaucoup de joueurs formés dans l'effectif. Bah,
au début, ils n'avaient pas trop le choix,
ils n'avaient pas le choix.
Mais quand tu remontes, tu peux avoir cette facilité de, du coup, de, vu que tu as un petit peu plus d'argent, de tourner vers d'autres marchés. Et au final, ils ont gardé le parti pris de garder des joueurs de la formation et de mettre l'accent sur la formation surtout. Et si tout le monde suit cet exemple, bah, je te dis, à terme, si tous les clubs commencent à avoir des bonnes générations et des bons formateurs, nous, on le voit tout de suite, l'exemple, c'est que cette année, la génération, elle est un peu plus compliquée, mais en plus de ça, on a un entraîneur incompétent en U23 et en Youth League, c'est pour ça qu'on a été éliminé, et on a un entraîneur incompétent dans la B. Donc forcément,
Ouais, parce que la B aussi c'est compliqué
et
aussi.
pourtant, tu as quelques joueurs qui ont la capacité à aller voir plus haut, je pense notamment à Raphaël Louis, Jean Vlose et j'en passe, Diego Spencer, Jean Fonseca, Thiago Parente, mais le problème c'est que bah, tes formateurs importants en B et en U23 sont mauvais. Donc bah, forcément, il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et à la fédération, bah, on a ça à tous les étages. Et notamment en U21 où il y a un sélectionneur qui est là
Ah ouais,
depuis
là,
trop longtemps.
c'est la grande
Ah ouais,
faucheuse.
c'est
Là, il est
horrible.
là, il les chope tous en plein vol.
Mais ça, bon, ça mériterait un sujet bien, bien long aussi.
Oui, bien spécifique et je crois qu'on n'aura jamais vraiment
Non, je pense
terminé
pas non plus.
là-dessus. Disons que c'est peut-être le truc qu'on peut le plus attendre de Roberto Martinez,
Oui.
puisque c'est ce qu'il a fait en Belgique, c'est réformer complètement la formation. Et ben, il y a déjà des fruits qui se. Bon, après, il est arrivé en 2016, mais les jeunes Belges en bénéficient déjà maintenant. Donc voilà, ça va vite. Franchement, si tu travailles bien, ça va très vite pour récolter les fruits. Et donc, il faut espérer que ça se passe. Maintenant, le contexte est différent, hein. Il n'y avait pas de Georges Mendes en Belgique. Et en Belgique, il était sélectionneur et directeur du football, ce qui n'est pas le cas ici au Portugal. Donc, il a moins la facilité de pouvoir gérer un peu tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut espérer avec lui, qui tire là aussi la formation et la professionnalisation de la formation vers le haut.
T'avais pas Georges Mendes, mais t'avais celui-là qui était lié au standard.
Ouais, il y a les Bayat, il y a les Enrothé, ils sont
Non, mais
tous.
c'est un ancien, je crois que c'était l'agent de Conceição à l'époque, j'ai plus son nom. Mais je crois qu'il était lié au football aussi, au standard aussi, et c'était un agent qui avait tendance à mettre le nez aussi.
Ah oui, les D'Onofrio,
Exactement.
c'est ça, oui. Oui. Mais lui, il était, en fait, il était tout, hein. Il était président, agent, directeur
Ouais,
de
bah c'est
foot,
Mendes quoi,
il
c'est
était
pareil.
tout. Voilà, exactement. C'est un peu, en Belgique, c'est un peu notre Bernard Tapie à nous.
Oui, ouais, ça
Voilà.
m'étonne pas.
Voilà. D'ailleurs, le Standard a été champion en 2008 et 2009. Ça faisait 25 ans qu'il n'avait plus été champion. Ils ont été champions quand c'est lui qui était président. Et depuis, ils n'ont plus été champions. Donc,
Génération Witsel, Dufour, Mangala. Ouais, quelle
exactement.
équipe.
Ouais, Fellaini aussi, qui ont moins réussi au niveau, mais Bocanni, Jovanovic qui a joué à Liverpool, qui a fait Standard Liverpool. Mais ouais, cette génération-là, ce trio magique,
Incroyable.
Witsel, Fellaini, Dufour,
Et Richie De La Hette aussi.
avec.
Il me
Ouais,
semble, ouais.
c'est ça. Ouais. Et qui à l'époque en plus Defour qui était numéro 10, Fellaini qui était numéro 6 et Witsel qui était
Ouais.
numéro 8. Et ils ont tous fait carrière à des autres postes. Ils sont tous inversés un petit peu leur positionnement. Mais ouais, cette fameuse équipe-là. Et qui avait justement là aussi beaucoup joué sur la jeunesse et sur des joueurs plus expérimentés. Donc voilà, on en revient toujours à la formation et à la qualité et à la professionnalisation
Et
de
je
ça.
pense que justement, pour finir justement sur ça, c'est que le FC Porto a compris que ça passait par là. Surtout qu'ils savent que je pense que les prochaines années, financièrement, ça va être compliqué. Et qu'il faut absolument miser sur ça. Du moins, Villas-Boas l'a compris. Et il a tiré la sonnette d'alarme que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà, si jamais il est élu, il va mettre le point dessus. et ça pourrait être que valorisant pour le FC Porto et pour le pays, tout simplement. Surtout vu la
Ouais,
qualité des joueurs qui arrivent.
clairement, et je pense qu'aussi il y a un autre élément qui joue dans cette importance de la formation, c'est que Porto n'est plus comme il l'était au milieu des années 2000, début des années 2010, le port d'entrée en Europe pour les joueurs
Bien sûr.
sud-américains. Maintenant, il y a d'autres clubs qui le font aussi, et Porto n'est plus capable d'avoir chaque année 3-4 nouvelles pépites qui viennent spécifiquement d'Amérique du Sud et qui viennent à Porto parce que c'est Porto. Alors, c'est toujours le cas. Mais maintenant, il y a de la concurrence. Et quand on
Ah
voit
ouais.
que certaines concurrences, c'est le Barça ou le Real qui vont chercher des Brésiliens de 16 ans, ben ouais, ça veut dire que tu dois te réinventer parce que tu garderas pas le leadership du marché très longtemps, quoi. Mais voilà. Je pense qu'on termine bien. La formation portugaise a de l'avenir. Donc voilà. Je ne t'entends plus, Phil, si tu parles, sache-le. Mais voilà, je pense qu'on peut se laisser, qu'on a été relativement complet pour ce space. On a été tellement complet qu'on a parlé d'autre chose du match, puisqu'on a parlé de formation. Donc bah, merci à tous de nous avoir suivis. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une émission. Il n'y a pas encore de thème abordé spécifiquement. Mais voilà, on se rejoint vite, on se revoit vite. Et je ne sais pas, Phil, est-ce que tu es de retour? Est-ce que tu m'entends? Non, bon ben du coup, je pense qu'on peut se laisser là, et voilà. Attendez, on va essayer de récupérer Phil, ou moi d'ailleurs, je sais pas si c'est moi ou pas. Bon voilà, on a vérifié, c'est bien Phil qui a un problème, mais du coup je vous propose de se laisser ici, comme ça ce sera plus facile. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à retweeter, repartager évidemment ce space qui va rester, et on se tient au courant, de toute façon on communiquera sur les prochaines émissions et space la semaine prochaine. Merci encore de nous avoir écoutés, et merci, et à la prochaine. Ciao!